Dans l'évangile de Marc, nous allons lire un passage au chapitre 5 et au verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talita, kumi !» Ce qui se traduit par « jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Et Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache et leur dit de donner à manger à la jeune fille. C'est un texte de l'Évangile que je lis, que je sonde depuis de nombreuses années, je dirais pas tous les mois, mais pratiquement. Parce que c'est un texte qui parle notamment d'une femme qui est malade et qui perd du sang et de ce fait-là recherche une réponse de Dieu à sa souffrance. Et c'est un texte que je lis souvent avec les patientes du groupe d'échange spirituel du centre où je travaille, qui sont malades, qui sont en difficulté, en souffrance, et je trouve que ce texte correspond tellement à leurs besoins. Et ce matin, dans la préparation pour ce culte, m'est venu à l'esprit de reprendre ce texte-là. Et très étrangement, je crois que le Seigneur m'a donné de voir, de trouver quelque chose que je n'avais jamais vu. Où j'avais fait un choix de lecture qui était celui que j'avais depuis de très nombreuses années. Je lis ce texte-là, je vous dis, une fois tous les mois ou tous les deux mois. Et j'ai fait le choix, pendant toutes ces années, de lire ce texte-là, en disant que ce texte de l'évangile de Marc est semblable à une douchka, vous savez, ces poupées russes. Quand vous prenez la première poupée, vous l'ouvrez, vous avez une poupée, vous l'ouvrez, vous avez une poupée, vous l'ouvrez jusqu'à une toute petite. Et souvent, jusqu'à maintenant, j'avais lu ce texte comme cela, en disant, vous voyez, ce texte de l'évangile de Marc est comme une douchka. Vous avez un premier récit qui est celui de Jaïrus, le chef de la synagogue, qui vient, c'est la première poupée, avec une demande, avec une attente. Et puis, à l'intérieur de cette histoire se trouve une autre histoire, celle de cette femme avec une perte de sang. Et en faisant cela, en ayant cette lecture-là, eh bien, je me suis certainement privé de quelque chose qui se trouve dans le texte, si on prend les deux guérisons, non plus comme une guérison dans laquelle il y a un autre récit de guérison, mais deux guérisons qui se parlent entre elles, qui disent quelque chose entre elles. Et j'ai travaillé ce texte-là, je l'ai lu, relu, et je me suis dit, tiens, il y a des choses que je n'avais jamais vues. Je n'ai que 60 ans, fort heureusement, et seulement 44 ans de conversion avec le Seigneur, ce qui me laisse beaucoup d'espérance pour découvrir encore des choses nouvelles. Et je me dis que ça doit être le cas aussi du papa de Yaël, qui est un petit peu plus que moi. Je me dis qu'à son âge, il doit encore découvrir des choses nouvelles en sondant l'Écriture. Ça laisse de la marge de progression pour ceux qui sont plus jeunes, n'est-ce pas ? On peut, avec l'aide du Saint-Esprit, avoir tout à coup une lumière qui se pose sur sa parole de manière nouvelle. Alors, ce récit dans l'évangile de Marc, en fait, il est véritablement un récit à part entière. Si vous lisez ce passage de l'évangile de Marc, vous rendez compte qu'il commence par ces quelques mots, « Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer ». Et si vous terminez le chapitre 5, le chapitre 6 commence par « Et Jésus partit de là ». Ça veut dire que ce récit du chapitre 5, c'est un récit à part entière. C'est un récit où il y a du lien entre ce qui se passe à l'intérieur de ce temps. Nous avons eu notre temps de rencontre sur la réforme, les 500 ans du protestantisme. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, l'art a été renouvelé aussi par le protestantisme. Et une des choses qu'on ignore, c'est que le théâtre a été bouleversé par une nouvelle règle qui a été introduite par un protestant au XVIe siècle. C'est l'unité de temps et de lieu. C'est-à-dire qu'au théâtre, pour que les choses fonctionnent, il faut qu'il y ait une unité de temps et de lieu, et que le récit qui se passe devant les spectateurs, quelque part, soit dans un temps et un lieu bien précis. Sinon, on est perdu, on ne sait pas ce qui se passe. Ça, c'est la grande découverte qui a été posée au niveau théâtral pour qu'une pièce de théâtre soit totalement compréhensible. Eh bien, dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc, nous avons une unité de temps, de lieu et d'action. Il y a un récit en entier qui se déroule là et qui fait suite à un autre récit qui est là aussi dans une unité de temps, de lieu et d'action. C'est la guérison d'un démoniaque. Il y a Jésus qui, à un moment donné, va sur une barque et puis avec quelques disciples traverse et va dans le pays des Gérasiniens et puis va accomplir un miracle sur un homme qui est possédé par des démons et puis qui vit au milieu des troupeaux de porcs, des gardiens de porcs. Il paraît qu'il y avait 2000 porcs qui étaient là. Et puis, à un moment donné, Jésus intervient à l'étranger, loin de cette région de Galilée où l'évangile de Marc se situe principalement. Et puis, il va accomplir un miracle de délivrance chez cet homme-là et les démons vont aller dans les pourceaux. On se dit, tiens, c'est étrange. Jésus qui va dans un lieu un peu étranger, et en plus dans un endroit qui est totalement, quasiment interdit aux Juifs, un endroit où on lève des porcs. Il n'y a pas d'interdit pour Jésus. Il va là où l'homme a besoin de lui, quel que soit son cas. C'est vrai que je n'avais pas réfléchi à ça. 2000 porcs. C'est comme le plateau des 1000 vaches, c'est ça ? Hein ? Élevage industriel de porcs. Pourquoi ? Certainement parce que dans ce récit, on est dans une région qui est en train de mettre en place de l'élevage industriel pour pourvoir aux besoins de l'armée romaine. Pas des juifs, bien évidemment. Et pourtant, Jésus va là-bas. Et là, il va s'occuper d'une personne. Quel gâchis quand même, en termes de productivité spirituelle. Jésus qui va à l'étranger s'occuper d'un homme. J'aime profondément l'action de Christ. Il n'est pas dans la production. Il n'est pas en train de dire « Mettez-moi une foule d'au moins 3000 ou 5000 personnes pour que je puisse annoncer le salut. » Non, il va à l'étranger, dans un endroit interdit, et là, il va rencontrer une personne. Cela parle de l'amour de Christ pour l'individu. Au début de ce culte, nous n'étions pas nombreux. Et comme beaucoup de pasteurs, les pasteurs regardent, ils disent « Ah, qui est-ce qui manque ?» Puis on fait la liste dans sa tête, vous savez. Oh, il y a beaucoup de pasteurs qui font ça et j'échappe pas non plus à cela. Ah oui, il y a un tel. Ah oui. Mais si tout le monde était là, il y aurait 10, 15, 17 personnes de plus. Et puis j'ai toujours cette pensée de Dieu condamnant David, vous savez, quand il a fait le dénombrement de son peuple pour prouver sa puissance. Et Jésus va dans un endroit interdit, un endroit malsain, impur. Et là, il délivre une personne. C'est cela, la grâce et l'amour de Christ pour l'homme. Il vient me rencontrer en individuel, moi et moi seul. Et puis, une fois qu'il a fait cela, il reprend le bateau, il revient. Et là, il y a une foule qui l'accueille à nouveau. Et dans cette foule, il y a un homme qui s'approche, Jaïrus. Et c'est vrai que moi, je m'intéressais moins, en fait, à la réalité de cette demande de Jaïrus, à la réalité des besoins de sa fille. Je m'étais cristallisé sur cette femme qui perdait du sang. Et finalement, j'ai découvert en relisant le texte qu'il y avait un récit qui était tout aussi important et qui se répondait entre eux, entre la démarche de Jaïrus et celle de cette femme qui perdait du sang. Le statut de la fille de Jaïrus est très particulier. Lorsque Jaïrus s'approche de Jésus, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle parce que sa fille ne peut pas parler. C'est lui qui vient dire. Et il parle de sa petite fille. En grec, c'est Thugatrion. Ma petite fille, ma toute petite fille. Il y en a certaines dans l'Église, quand elles parlent de leurs enfants qui ont 40 ans, qui disent « mon petit garçon, mon fils ». Et on les entend, on a l'impression que si on ne les connaissait pas, que le petit garçon, il est... Puis en fait, on aperçoit qu'il est... Jaïrus, c'est comme ça. Ma petite fille est à toute extrémité. Elle est mourante. Et ce qui est très étrange dans ce texte, c'est que cette petite fille, au fil du texte, au fil de l'intervention de Jésus, elle passe du statut de petite fille à enfant, d'enfant à jeune fille et de jeune fille à demoiselle, en l'espace d'une guérison. Ça, on le voit dans les mots grecs, où au début, c'est une enfant, et à la fin, c'est une jeune fille de 12 ans, c'est-à-dire une jeune fille qui est en âge de se marier dans la société de l'époque. Elle est passée d'une enfant à une jeune fille. Et ce texte nous parle de l'évolution de cette fille. En fait, on cristallise souvent notre attention sur Jaïrus. Mais il est bon de regarder ce que devient cette jeune fille quand elle est confrontée à l'action et à la puissance de Jésus. Le statut de la jeune fille, de la fille de Jaïrus, change. D'enfant mourante, elle devient une jeune fille vivante. Je me dis que c'est là aussi ce que Dieu veut accomplir comme œuvre dans chacune de nos vies. Une fois, je recevais une patiente d'origine portugaise. et j'avais un bon discours de soignant, bien calé, bien typé, que je disais à toutes mes patientes au moment où je les recevais, au début du séjour. Je leur disais, pour leur expliquer la démarche de soins, vous allez être amené à redécouvrir la femme qui est en vous. Et je dis souvent que cette femme m'a donné une belle leçon en montrant que toutes les femmes ne sont pas les mêmes et tous les hommes ne sont pas semblables et que c'est pour ça que Jésus vient nous rencontrer individuellement. Cette femme m'a regardé et me dit, c'est pas possible. Je ne peux pas redécouvrir la femme que je suis en travaillant simplement pour sortir de l'alcool et de la drogue. Et dans ma tête, je me suis dit, aïe, encore une récalcitrante. Elle me dit, non, je ne peux pas redécouvrir parce que je ne sais pas qui je suis. Elle avait un parcours de vie. Jeune femme, jeune fille portugaise qui, à 12 ans, a perdu sa mère, c'était le même âge, et qui est devenue la mère de ses frères et sœurs, la femme qui tenait le foyer, puis à 16 ans, elle a eu l'autorisation de se marier, elle a eu des enfants, et m'a dit, de ce fait, je ne sais pas qui je suis. Ce que Dieu fait par rapport à cette jeune fille, la fille de Jaïrus, c'est de la faire passer d'une enfant mourante qui était dans un statut de mort à une jeune fille vivante. Et ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies, c'est la même œuvre. Et que les jeunes gens ou les hommes ne se sentent pas exclus de cette parole, ça les concerne aussi. Comment le fait que nous soyons peut-être un enfant mourant malgré notre âge, c'est-à-dire où l'être intérieur n'a pas pu grandir, se développer et trouver toute sa stature, Dieu vient à notre rencontre et veut nous guérir, nous faire sortir de cette mort parce qu'il est anormal aux yeux de Christ que nous demeurions des enfants. Que ce soit des enfants humains, mais aussi des enfants spirituels. Il est bon que nous grandissions, que nous nous épanouissions. Et cela est vrai aussi bien en tant que jeune garçon, jeune fille, mais aussi comme chrétien. Le statut de la fille de Jaïrus va changer. Mais quand on regarde le récit de la femme qui perd du sang, on a l'impression que ce récit est différent. Il y a une fin qui implique, qui rend active la femme à sa guérison. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des mots qui se retrouvent dans les deux guérisons, et notamment ce fameux mot « toucher ». Si vous regardez dans le texte concernant la fille de Jaïrus, c'est Jésus qui touche la fille. Dans le récit de la femme qui perd du sang, c'est la femme qui touche Jésus. Et Jésus qui dit « qui m'a touché ?» Nous voyons bien que ces deux épisodes sont en relation étroite l'un avec l'autre. Alors d'un côté, il y a des différences frappantes. On peut voir par exemple que Jaïrus, c'est un chef de synagogue, un personnage important et qui a un nom. Vous avez remarqué cela ? Jaïrus a un nom. La femme, elle n'en a pas. L'un est reconnu, l'autre est anonyme. La femme n'a pas de nom dans sa maladie, dans son exclusion. On verra pourquoi. Lui est responsable de la synagogue, c'est-à-dire qu'il est un des notables. Le responsable, ce n'était pas le rabbin, c'était celui qui avait assez de biens, qui était assez représentatif de la communauté juive pour en être le chef et le représentant. Je dis souvent ici, notre chef de synagogue, c'est Michel. C'est lui le président de l'association cultuelle, le notable, celui qui est représentatif de l'association. Si on veut faire représenter l'association, l'Église, il faut l'envoyer. C'est le président. C'est notre Jaïrus. Il est responsable de la synagogue, alors que elle, cette femme qui s'approche ensuite, c'est une femme qui est exclue de la synagogue. Elle n'a pas le droit d'y aller, d'y être, de s'y présenter à cause de sa maladie. Elle a une maladie, si vous relisez attentivement le chapitre 15 du Lévitique, et je vous y invite pour comprendre le profil et ce que porte cette femme, au chapitre 15, je le lis souvent, avec les patientes pour expliquer cela en lisant ce texte-là. Elles sont surprises que le texte du Lévitique, chapitre 15, commence par « Quand une femme a ses règles ». Du coup, vous attendez, vous, dans quelle Bible vous lisez ça? Vous parlez vraiment de la Bible, la Bible, la Bible? Et dans la Bible, il y a des récits qui parlent des règles des femmes. Ben oui, c'est très concret. Et le chapitre 15 est d'autant plus un livre concret qu'il met en lien la perte de sang, qui est le symbole de la vie dans le judaïsme, avec le fait que pendant ce temps-là, il y a une notion d'impureté, de séparation, de mise à part. C'est quelque chose de très fort. Et pour les juifs orthodoxes, j'avais vu un reportage il y a quelques années là-dessus d'une femme qui vivait dans les années 2000 et qui perdait du sang et qui se retrouvait dans la même situation que cette femme et qui expliquait ce que ça voulait dire pour elle. Plus de contact avec son époux, avec ses enfants, être complètement replié jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais si ça ne s'arrête pas, on reste dans cette position d'impureté, d'exclusion. Jaïrus est chef de la synagogue. Cette femme est exclue de la synagogue, c'est-à-dire de là où on se rassemble ensemble. Je n'ai pas le droit d'être avec l'autre. Oh, on peut se dire, c'est la loi juive, c'est le Lévitique. Combien y a-t-il d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, et peut-être dans cette salle, du fait de ce qu'ils portent en eux, en elles, se sentent exclus de la communauté des vivants? Je n'ai pas de part avec les vivants parce que je n'ai pas ce qui me permettrait, cette santé, ce tout, qui me permettrait d'être avec les autres, à égalité avec les autres. Est-ce que vous n'avez pas déjà eu ce sentiment d'être exclu, d'être en dehors, de ne pas mériter, et que le regard des autres soit un regard d'exclusion, de jugement? C'est peut-être pas leur regard, c'est peut-être ce que moi je vois ou je crois deviner dans leur regard, l'interprétation que j'en ai. Jaïrus a une famille, une maison et beaucoup d'entourage, on le voit au chapitre 5 et au verset 35, la maison est pleine, on voit même la femme apparaître à un moment donné. Très étrange cette famille où l'homme est tout le temps présent, porte son enfant, et à un moment donné, juste à la fin, on voit la femme apparaître. La femme apparaît, la mère apparaît, quand la fille guérit et devient jeune fille. Intéressant, non? Quand chacun reprend sa place dans la cellule familiale. Jaïrus a une famille, une maison, beaucoup d'entourage, et la femme, elle n'a plus rien. Relisez le chapitre 15 du Lévitique. Si quelqu'un touche cette femme, il est impur, jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assoit sur le siège où elle s'est assise, il est impur. Si quelqu'un, son mari, couche avec elle au moment où elle a ses règles, où elle perd du sang, il est impur pendant une semaine. Imaginez la vie de cette femme. Elle n'a plus rien, et sa maladie tendrait plutôt à l'exclure du mariage, de la maternité, de la société, à cause de son impureté. Est-ce qu'il y a un peu ce sentiment-là dans ta vie ce matin? Sentiment de ne pas être en communauté, mais à cause de ce que je suis, je me sens à part, exclu. Cette parole de l'Évangile est pour toi, pour te dire que ce matin, comme pour cette femme, Dieu veut te toucher. Il veut se laisser toucher par toi. Ce serait plutôt la meilleure formule. Comme cette femme est venue par derrière et l'a touché, Jésus-Christ. Jaïrus, notable, bien dans sa peau, dans ses baskets, il agit ouvertement et publiquement. Cette femme agit en cachette. C'est ce qui sépare ces deux personnages. Mais il y a aussi des similitudes. Ce texte, dans sa construction, nous propose aussi des liens parallèles à faire. L'un comme l'autre se retrouvent unis par la détresse et sont demandeurs de salut. Pas simplement de guérison, de salut. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et on va s'apercevoir que dans ce texte-là, comme pour celui, pour l'épisode avec la femme qui perd du sang, il n'y a pas simplement question de guérison physiologique, somatique. Il y a une ouverture sur le salut. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. L'un et l'autre se retrouvent unis dans la détresse. Et ils se disent, voilà, j'ai la demande que Christ intervienne dans ma vie. Ça, c'est ce qui les réunit. Et c'est vous dire, si on peut avoir des yeux un peu fermés, jusqu'à il y a 2-3 jours, j'avais totalement oublié que quand cette femme s'approche de Jésus, où était Jaïrus ? À côté. Il est dit que Jésus marcha avec lui. Eh bien, vous savez, ça fait 40 ans que je lis ce texte, j'avais pas du tout pensé que Jaïrus était à côté pendant qu'il y a eu cet épisode avec cette femme qui le touche en cachette. Et puis, tout le restant du récit où Jésus se retourne, dit « Qui m'a touché ?» Elle vient. Et puis, j'avais complètement oublié que Jaïrus voyait cela. Vous imaginez aussi ce que cela a pu susciter, comment la foi de cette femme a pu susciter quelque chose en lui et faire que lorsque là aussi ses serviteurs reviennent en disant, ou les gens, parce que c'est des gens, hein, il y a toujours des gens qui vont nous dire ce qui s'est passé. Vous savez, alors que la femme est guérie, il est dit qu'il y a des gens qui viennent et qui lui disent, ah, pour tu ne plus le mettre, tu sais, ta fille est morte, c'est fini, c'est terminé. Il y a toujours des gens pour vous dire ce qui est... ce qu'est la réalité. Une réalité sans Dieu. Mais il y en a plein, des gens. Vous n'en connaissez pas, vous, des gens qui viennent, qui vous disent, tu sais, c'est pas la peine de croire en cela, ça arrivera pas. Hein. Il y a toujours des gens qui viennent vous voir quand vous êtes en souffrance et en difficulté, qui vous disent, ah ouais, c'est bien, mais tu sais, faut serrer les dents. Hein. T'as pas autre chose à faire. Hein. Vous n'en connaissez pas, des gens comme ça, hein? J'aime bien, moi, quand la parole de Dieu utilise ce vocable « des gens ». Vous savez, dans Ruth, quand il y a Boaz qui va se mettre à la porte de la ville et qu'il attend celui qui a le droit de rachat, cet homme-là, qui a le droit de rachat, il n'a pas de nom. Il fait partie des gens. Et il vient et puis il dit « Oh ben non, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je vais perdre la fortune si j'épouse Ruth ». Les anonymes, les gens, dans la parole de Dieu, ce sont toujours des personnes qui sont là pour donner les conseils du monde et nous écarter de la foi et de l'espérance en Christ. Alors, dans ce texte, il y a aussi une parallèle intéressante, c'est qu'il est question de femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a une qui est malade depuis 12 ans. Et l'autre qui est mourante et qui a 12 ans. Et tout à coup, quand on lit ça, on se dit, tiens, il y a des parallèles, ce n'est pas un hasard. La parole de Dieu ne propose pas de hasard. Elle dit simplement, voilà, la correspondance. Vous avez une enfant qui a 12 ans et qui va vivre une guérison. Et puis une autre qui est malade, qui va vivre aussi une guérison. Et toutes les deux connaissent une durée de 12 ans, soit de vie jusqu'à la mort, soit de maladie. Dans les deux cas, ces femmes sont mortes, l'une et l'autre. Elles sont mortes puisque la femme atteinte d'hémorragie est socialement et religieusement morte et que l'enfant est morte aussi. Dans les deux cas, la guérison consiste à une réintégration dans la société. Alors, on pourrait dire que c'est le retour à la pureté d'un côté et le retour à la vie de l'autre. Ces deux femmes se retrouvent non seulement vivantes, mais on va dire capables de donner la vie. Est-ce que vous avez envie de redevenir vivante, de donner la vie, spirituellement et réellement, concrètement? C'est ce que Dieu veut pour chacune de nos existences, nous rendre vivants et porteurs de vie. Ce qui se passe est également important au niveau de l'inversement des rôles. Il y a un inversement des rôles flagrant dans ce texte de l'évangile de Marc. Si vous regardez Jaïrus, c'est celui qui parle. Il vient voir Jésus et il lui parle. Il le supplie au verset 23 de venir voir sa fille. Il lui adresse ça une instante prière. C'est lui qui parle, qui verbalise les besoins de sa fille. Il est invité à la fois face à un entourage qui joue un rôle négatif. Son entourage vient lui dire, écoute, importune pas le maître, ne lui casse pas les pieds, tu sais. Finalement, les choses sont jouées, les dés sont jetés. Il est face à un entourage plutôt négatif. Et puis, il devient un acteur silencieux. Si vous regardez la suite du texte, on s'aperçoit que lorsque Christ rentre dans la maison, eh bien, on n'entend plus Jaïrus. C'est le silence. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, on a une femme qui, elle, ne parle pas. Elle ne dit rien. Elle se sert même d'une foule qui joue pour elle un rôle plutôt positif. Je me cache derrière, je m'approche. La foule ne joue pas un rôle négatif, repoussant, excluant. Non, elle s'en sert pour s'approcher de Jésus. Il y a parfois des gens qui rentrent dans l'église, puis au fond de l'église, simplement viennent là, profitent de l'assemblée pour pouvoir juste capter les choses qui leur feraient du bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est elle qui touche Jésus. Alors que dans Jaïrus, l'histoire de Jaïrus, c'est Jésus qui touche la fille. C'est elle qui touche Jésus. Et Jésus provoque sa parole et l'invite à devenir un sujet qui parle, qui s'affiche, qui se dit, et dont la foi est reconnue. Un sujet qui parle. Dieu veut te guérir là où tu es, pour que ta parole soit libérée, que tu deviennes un sujet parlant. C'est très étonnant cette guérison, c'est que lorsque Jésus marche, elle vient au cachet derrière. C'est le produit de sa honte, de son exclusion depuis 12 ans. Plus personne ne l'a touchée depuis 12 ans. Elle vient, elle le touche. La guérison pourrait s'arrêter là. Docteur, elle est bien guérie. On peut s'arrêter là, non ? Sortez du bureau. Patient suivant. Fille de Jaïrus, Seigneur. Bon, on y va. Je prends le ton des médecins. C'est pas comme ça qu'ils sont, hein. Rassurez-vous. Enfin, tous ceux que je connais. Mais oui, on aurait pu s'arrêter là dans le récit. Jésus a fait son rôle de thaumaturge. Il a guéri. Sauf que Jésus fait une chose. Il s'arrête, il se retourne et dit « Qui m'a touché ?» Je dis souvent que c'est une fausse question. Jésus sait qu'il l'a touché. Il suffit simplement de lire les évangiles, de voir qu'à un moment donné, il y en a un qui est de l'autre côté de la ville, et il le voit de l'autre côté de la ville, et quand il s'approche, il dit « Je te voyais sous ton arbre. » Alors, quelqu'un qui est derrière lui, aucun doute. Pourquoi pose-t-il la question ? Pour faire que cette femme qui était dans le silence depuis 12 ans redevienne un sujet parlant. Ce que Dieu veut dans ta vie aujourd'hui, c'est que tu puisses à nouveau porter ta parole. Être un sujet qui parle, qui se dit, qui peut se dire, libéré de la honte, libéré de ta maladie, libéré de ton sentiment de ne pas être digne. Dieu veut accomplir dans ta vie et dans ma vie ce miracle-là aujourd'hui. La situation sociale, le parcours de Jaïrus comme de cette femme sont opposés, mais le résultat est identique. Le plan de Dieu pour les deux, c'est le salut. Mais il y a, même dans la narration de ce texte, des positionnements différents. Rappelez-vous, lorsque Jaïrus vient à la rencontre de Jésus, cet homme digne, notable, qui est bien dans sa position sociale, se jette à ses pieds. Se jette à ses pieds. Il s'abaisse. Ouais. Il est invité à la foi. Il se tait. Il s'efface derrière sa fille. Et l'élévation de la femme qu'est sa fille. Il se met en retrait. Il abandonne une position de père pour laisser sa fille devenir une femme. Ouais. Mais la femme qui a une perte de sang, elle vient par derrière, elle est quasiment à genoux, elle touche le bas de son vêtement. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il se retourne et il la met en lumière et debout. Deux mouvements différents, parce qu'il y a deux besoins différents. Jaïrus a besoin d'abandonner sa position, son assurance, ce qu'il est, et de se mettre à genoux devant Christ. Certains ont besoin de cela. Moi, je serais plutôt dans ce besoin-là. Plutôt besoin d'apprendre à me mettre à genoux qu'à être élevé. Mais je pense qu'il y a, en fonction de nos vies, de nos parcours, des personnes qui ont besoin de se mettre debout, de retrouver cette parole de Christ qui sauve et qui libère et qui me permet de me tenir à nouveau debout comme une femme guérie, libre, libérée. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est vrai aussi pour les frères qui pourraient être dans cette position d'abaissement, écroulés sous le poids de la culpabilité et de l'exclusion. Dieu veut que tu te retrouves debout devant lui. C'est pour cela qu'il pose cette question. Qui m'a touché? Il sait, mais il a besoin que cette femme fasse un pas de foi, fasse un acte de foi en disant « c'est moi ». Alors le Seigneur lui dira « ta foi t'a guéri ». Il va reconnaître publiquement que cette femme-là a une foi peu commune et que c'est cette foi-là qui l'a sauvée et qui lui permet de se tenir debout. Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que je veux vivre ce matin cette résurrection et cette vie? Pour la femme qui perd du sang, comme pour la fille, le salut, c'est la réintégration dans la communauté des vivants du fait d'une parole extérieure à celle du monde. Le père et les gens qui disent que la fille est morte, le Lévitique et celle des médecins pour la femme qui disent « vous êtes fichu, vous allez devoir rester avec ça toute votre vie, il n'y a rien à faire ». Et puis, il y a cette parole qui intervient. Il y a dans le protestantisme, dans la théologie protestante, quelque chose qu'on appelle l'extranos. L'extranos. Le salut vient de l'extérieur de notre sphère habituelle d'expérience. Le salut, on ne peut pas le trouver en soi. C'est ce que le monde essaye ou préconise. Le salut vient de l'extérieur. Il vient de Jésus-Christ et de la foi que l'on peut porter sur lui. C'est ce qui sauve cette femme, c'est ce qui sauvera cette jeune fille. La femme est guérie de sa souffrance de femme. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme devient fille. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais dans le texte, il est dit « ma fille, ta foi t'a guérie ». Ça veut dire que cette femme qui était avec cette perte de sang dans son statut de femme malade, elle redécouvre son statut de fille en Dieu. Retrouver ce que l'on est aussi comme fille et fils de Dieu. Retrouver le Père, sa relation au Père. La seconde devient un sujet actif de sa propre vie. Elle passe du statut de petite fille à celle de fille, puis d'enfant, et enfin de jeune fille qui se lève et qui mange. Dieu veut que nous puissions vivre aussi cette résurrection, qu'on puisse se lever et manger. Là aussi, je n'ai pas trop de difficultés sur le fait de me lever et de manger. Mais je dis spirituellement, voilà ce que Dieu veut pour toi et pour moi, que je puisse aussi me lever et manger. Jaïrus et la femme expérimentent une même souffrance qui se dit de deux manières différentes. Pour Jaïrus, c'est une souffrance du trop-plein. J'ai trop de choses et je ne veux pas le perdre. J'ai une fille, je ne veux pas la perdre. Pour l'autre, c'est une souffrance de manque. L'un va devoir perdre sa fille pour qu'elle vive, la laisser devenir femme, et l'autre va retrouver une identité de fille. Voilà les parcours que Dieu veut accomplir dans nos vies. Si nous sommes en possession de trop de choses qu'on ne veut pas perdre, Dieu veut nous apprendre à nous détacher de ces choses. Ah, c'est pas facile de se détacher de ses enfants. Et une amie récemment qui me disait « J'ai été pris toute cette nuit jusqu'à 2h du matin parce que mon fils qui est au Canada avait un devoir à faire. Et puis j'ai passé toute la nuit sur Internet pour lui donner toutes les informations dont il a besoin. » Et moi, je l'ai regardé, je dis « Waouh ! Je ne savais pas qu'un cordon ombilical, ça pouvait traverser l'Atlantique comme ça, disons. » Elle m'a regardé et me dit « Oui, je crois que là, effectivement, il est encore bien présent, le cordon ombilical. » Qu'est-ce qui nous retient? Quelles sont les possessions que nous ne voulons pas abandonner, laisser, pour que Dieu nous mette à notre place et que l'autre aussi, éventuellement, dans la relation familiale, soit affranchi, soit libéré pour devenir ce qu'il est. Et puis, l'autre femme, c'est redevenir une fille, fille d'eux. Elle était exclue de toute communauté à cause de sa maladie. Dieu veut te réinstaller dans une position de fille ou de fils par rapport à lui. Est-ce que tu es prêt à vivre ce qui aujourd'hui est un manque et le retrouver en Jésus-Christ? Les deux, Jaïrus et cette femme, sont dans une impasse, avec une limite qui semble infranchissable. Elle va mourir. Je perds du sang. Ce qui change, c'est la rencontre avec le Christ. C'est cette expérience d'une rencontre qui bouleverse la position que nous avons. Est-ce que nous sommes prêts à laisser cette œuvre s'accomplir dans nos vies? Maintenant, Seigneur Jésus, nous venons à toi avec cette joie, en lisant ta parole, de découvrir que tu veux accomplir cette œuvre de guérison et de transformation dans nos vies aujourd'hui. Tu le veux et tu le peux. Prince de vie, Seigneur des Seigneurs, tu n'es pas un simple guérisseur qui vient réparer les difficultés que nous avons, que nous portons, les souffrances qui sont les nôtres pour nous en libérer. Tu es le Fils de Dieu. Donne-nous, comme Jaïrus, de plier le genou, de nous réfugier en toi, de nous attendre à toi. Donne-nous de pouvoir t'abandonner ce que nous voulons retenir, même si ça nous semble légitime. Donne-nous, comme cette femme, de pouvoir aller vers toi dans la foi, qu'en te touchant, nous pourrons vivre une guérison vraie qui transforme notre vie tout entière. Merci de nous parler, Seigneur, au travers de ta parole, et que ton Esprit Saint accomplisse cette œuvre de changement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous voulons terminer. Je te laisse.